Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir, Money Time saison 5, épisode 13. Et en ce lundi 3 janvier, je vous présente au nom de toute l'équipe nos meilleurs vœux. Voilà, pour nous accompagner, on va commencer avec les présentations et nos chroniqueurs. À commencer par toi, mon Jérém. Comment tu vas bien en cette nouvelle année ?
Je vais très bien et je souhaite bonne année à tous et à toutes sur ces belles radios.
Et à côté de toi, c'est Jean-Marc. Salut mon pote.
Salut, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous souhaite à tous une bonne année et surtout une bonne santé.
Et à côté de toi, ou plutôt en face, c'est Charles. Salut Charles, comment tu vas bien ?
Salut à tous, salut à toutes. Bah moi ça va très très bien. Je suis ravi de vous retrouver en cette année 2022. Bonne année, bonne santé, que ça soit... sûr que ça aille très bien pour tous.
Et ton voisin de droite, c'est Fabrice. Salut mon Fab.
Salut à tous.
Excellente année à toi, bien sûr.
Et merci à toi. Mais bonne année, bonne santé à tous nos auditeurs. Et en une grande année sportive et plein de bonne santé, plein de bonnes choses.
Plein d'exploits sportifs pour cette année 2022, hein, qu'on espère riche en exploits pour le sport français. Hein. On rappelle, ça va commencer
Jeux Olympiques d'hiver.
Le 13 déjà, Jean-Marc, avec l'Euro de handball masculin, bien sûr. Et puis les Jeux Olympiques, ça sera pour le 4 février, en même temps que le tournoi d'ailleurs. Et évidemment, on n'oublie pas la Coupe du Monde de football, et ça sera... en novembre.
Et aussi, il y a la Coupe d'Afrique des Nations.
Le 6, alors le 9, c'est dimanche, ouais. Donc, ça démarre déjà dimanche. Eh bien, tu fais la transition, puisque la CAN, c'est du foot, et nous, on parle de foot dans le Prune Football Club.
Money Time. Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger, et bien plus encore. Le Prune Football Club.
Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et dans le Prune Football Club, on parle de Coupe de France. C'était les 16e. Le premier match qui nous intéresse, les chroniqueurs, c'était le FC Nantes face à Vitré.
Et comme le scénario a... un petit peu aidé les Nantais, puisque le match a été inversé pour des raisons de sécurité. Le match avait lieu à la Beaujoire à 13h45 dimanche. Et Nantes a saisi la balle au bon en gagnant 2-0 avec des buts. Vous allez m'aider les garçons.
De Blas et de Goebbels.
Exactement.
On peut dire qu'il a brisé la glace de Vitré. Non, la glace, je rigole. Mais c'est vrai, c'est un match qu'il fallait gagner. Hein.
Bien sûr.
C'était, il fallait enchaîner en Coupe de France... C'était un match en plus à la maison, dans des conditions particulières.
Alors après, les Nantais étaient sérieux. Hein. Il manquait les quelques joueurs partis pour la Coupe d'Afrique, c'est-à-dire pour le Mali, Charles Traoré.
Il y a 5 joueurs qui sont partis.
5 en tout, oui.
5 en tout. Donc,
il y a Khalifa Koulibaly.
Et Khalifa Koulibaly. Celui qui risque de nous manquer le plus, Moses Simon avec le Nigeria.
Castelletto, normalement, avec le Cameroun aussi.
Castelletto avec le Cameroun. Qui va nous manquer aussi, et puis il y avait un cinquième joueur, mais qui est plus avec la réserve.
Mais qui doit un peu moins.
Oui, mais bon, c'est 5 joueurs. En plus, on a fait un match sérieux contre Vitré. Attention, Vitré, c'est pas non plus. Ils étaient là pour gagner. Ils ont un gardien qui est exceptionnel. On l'avait vu il y a 2 ans d'ailleurs, en 2019, ça va faire 3 ans bientôt. Et ils nous avaient créé beaucoup de problèmes. Et non, c'est une belle équipe, attention. Hein,
très belle équipe. Alors le truc, c'est que Nantes, comme ils ont été repêchés en National 2 au dernier moment, ils sont derniers National 2, malheureusement pour eux.
Et là, ils sont dans la même situation parce qu'ils voulaient vraiment faire quelque chose contre Nantes parce qu'ils sont derniers. Ils ont marqué 6 buts en 14 matchs.
Ça les aurait relancés. Hein.
Avec une équipe sur le le papier qui n'est pas si mauvaise que ça. Et un gros bisou à Fred, qui est président du club de Vitré. Et tu m'entendras ce soir, je ne sais pas si tu m'entends, mais vous avez fait un bon match.
Ouais, ils ont fait un bon match, ils ont fait le job et surtout ils sont pas tombés dans le même piège que nos voisins rennais, hein, qui sont tombés face à une D2, mon Jérém.
Qui sont tombés face à au dernier de D2, Nancy, l'Est, Nancy-Lorraine, qui eux ont fait un bon match et qui Rennes ont...
Un peu le même scénario. Alors, d'ailleurs.
Ils sont arrivés, ils ont bien dominé.
Rennes a quand même beaucoup 15 au 4, je crois.
15 au 4.
Et a beaucoup vendangé dû à la faute de Serou Guirassy qui a loupé 6 occasions, dont un pénalty coupé dans le nuage. Et c'est vrai que le fait d'arriver aussi avec seulement 3 défenseurs, pur et dur pour un match comme ça, malgré sa Coupe de France, ça le plaît cash.
Alors, la particularité de Nancy, c'est qu'ils n'ont plus de coach, puisque Benoît Pedretti, leur coach, du coup, qu'on a vu sur le bord du terrain, est démissionnaire depuis le dernier tour de Coupe de France. Mais du coup, comme personne ne voulait prendre la place, il est resté, parce qu'il s'occupe du centre de formation, mais ils sont en recherche d'un entraîneur. C'est un petit peu le bordel là-bas à Nancy, mais un bordel assez grave dû aux actionnaires.
Ouais. Voilà.
Qui a été racheté récemment.
Sur Marc, il y a beaucoup de clubs devant le même cas en ce moment.
Oui, mais alors celui-là, c'est les anciens.
Il est un peu exceptionnel.
Celui-là, c'est les anciens de Nice. Et crois-moi que je t'invite à regarder Romain Molina par rapport à Nancy. Tu vas apprendre plein de choses. C'est magique. Hein. Et on retrouve Gauthier Ganaille. Hein. Il pourrait s'appeler Canaille comme président.
Non.
Le mec le président le mieux payé des deux divisions. Hein. C'est un petit scandale à lui-même. Du coup, on peut comprendre pourquoi Pedretti ne veut plus trop se mouiller sur l'équipe. Mais bravo surtout au gardien Baptiste Valette qui a arrêté 3 pénaltys et qui fait un match de folie pour Nancy.
Folie, ouais.
Ça.
J'aime bien quand je marque sur Rebelle un peu, comme c'est des choses à dire. Et j'adore. Il
parle au nom du peuple.
Et voilà, faut le dire parce qu'il y a des choses qui se passent dans le football
qui sont dramatiques.
Qui sont dramatiques, comme tous ces matchs arrêtés, annulés. Donc voilà, et maintenant, les présidents qui sont un peu véreux, il faut en parler des fois. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas une radio pour en parler, mais il faut en parler des fois.
On a tellement un président qui est irréprochable.
Tu parles le président de cette émission.
Voilà, on est bien
d'accord. Évidemment.
Non, on va laisser notre présidente où elle est, on n'a rien à lui reprocher.
Bon allez, on va continuer avec les Ligue 1 qui sont sortis et j'ai sur ma fiche Strasbourg battu à Montpellier.
Oui, un match, c'était logique. À l'extérieur. C'était plutôt logique, on dirait entre Montpellier et Strasbourg. Montpellier, on voit cette année quand même supérieur à Strasbourg et Ristich qui a marqué l'unique but de la rencontre.
Très
pour les
beau but, ouais. Poteau rentrant, magnifique frappe à 20 mètres.
Donc c'est pas un scandale, victoire plutôt logique, Montpellier est qualifié pour les 8e. La plus grosse surprise, c'est Clermont qui s'est fait éliminer par Sporting Club de Bastia 2-0.
Ouais, mais vu que c'était Armand Cesari, je suis moyennement surpris. En plus, Clermont commençait à être moins efficace. En plus, ils n'avaient pas Bayo, leur attaquant phare qui est parti à la CAN. Donc c'est un peu moins une surprise. Par exemple, Bordeaux qui se fait dérouiller à Brest 3-0.
Mais après,
décimé par le Covid.
Sont arrivés seulement avec 7 joueurs pros de leur effectif. Il n'en reste que des jeunes et de la réserve et du centre de formation. Ils ont quand même bien joué. Après, ça n'a pas duré longtemps face à Brest. Qui a fait un très beau match, gagné 3-0.
Brest à domicile. En ce moment, ils sont plutôt très bons.
Non, c'est ce que je voulais vous entendre dire. C'était l'histoire des 7 joueurs. Hein. Bravo à Bordeaux qui a joué et qui a défendu fièrement ses chances.
Les règles imposées
Bordeaux,
par
Bordeaux, c'est la
Berezina
quand même. C'est là, c'est la Berezina.
Et, plus de ça, sur ce
et
match,
ça sent très mauvais. Alors, moi, je vais vous dire une histoire. J'en ai discuté ce week-end avec un journaliste sportif. Travaille sur une équipe, sur l'équipe.
Voilà, il a des lunettes et cheveux frisés.
Tout à fait. et il me dit, vous savez pertinemment qu'en 2022-2023, on va passer à peut-être 18 clubs.
18 clubs.
Oh, c'est fait, ça a été voté. Hein.
C'était voté.
Et pas
alors,
de...
est-ce que... Alors maintenant, pareil, c'est une polémique où je veux pas rentrer dedans, mais la radio prune, et là aussi, on est une radio sportive. Est-ce que certains clubs ne veulent pas descendre cette année pour remonter directement l'année prochaine et éviter...
Oui, d'accord, d'être les 4. Oui, mais attention, il faut faire gaffe, hein, c'est déjà de plus en plus tangent. Il faut voir comment va être faite la redistribution aussi de l'argent.
Évidemment, mais dans le milieu footballistique, certains clubs qui sont en difficulté cette année préféraient descendre cette année et remonter directement l'année prochaine pour éviter la relégation à 4.
Je ne tenterai pas
trop
le pari.
Tu penses à quel club ?
Saint-Etienne, Bordeaux déjà.
Ouais.
Ah, c'est les deux clubs qui me.
Bah, Saint-Etienne, je pense que s'ils avaient voulu descendre dès cette année, ils n'auraient pas pris Duprat.
C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que, et en parlant du coup de surprise et tout, c'est Saint-Etienne qui a battu Jura Sud. Hein, c'est impressionnant. Hein.
Oui, avec oui. Encore des incidents hein, voilà. Sur cette rencontre.
Ouais. Oui, oh, bah, ils
un match arrêté 20 stocks, minutes encore.
Ouais. Ils ont encore des stocks de fumigène impressionnants. Donc tant qu'on. Ils rentreront
les
avec le fusilienne.
Peut-être à brûler.
Oui, oui planqué là où, vous savez. Ça va passer par Saint-Claude.
Mais non, non, mais il faut arrêter ce genre de match, quoi. Faut. Je pense pas que Jura soit vraiment un club violent et tout.
Non.
Bon, voilà, les ultras de Saint-Etienne ont encore fait parler d'eux. En ce moment, hélas, c'est des supporters, on va le dire et répéter encore une fois, qui ont été privés de matchs pendant un an et demi. Ils pleuraient pour pas voir les matchs. Maintenant, on les autorise à retourner voir des matchs et ils foutent le bordel, excusez-moi. Et moi, c'est juste. Ces gens-là, il faut les interdire de stade à vie.
Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais parce qu'on n'était pas là, mais il y avait aussi en 16e de finale, PFC Lyon.
PFC Lyon.
Ah, le scandale.
Le scandale. Le scandale et tout,
et puis, il y en a eu d'autres avant, Charles, écoute, il y a eu machin, il y a eu Nice, il y a eu Marseille, il y a eu.
Oui, non, mais alors, il y a deux. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu la différence entre la Ligue, qui gère la Ligue 1, la Ligue 2.
Les incompétents.
Et la FFF qui a pris des vraies décisions, c'est-à-dire que au tour d'avant, incident dans le stade à Charletti entre des pseudo-supporters de Paris Saint-Germain qui s'étaient venus par là et les pseudo-supporters lyonnais. Résultat, match arrêté et la Ligue a décidé non pas d'exclure, parce que peut-être que ce qui avait été mis le plus en lumière, c'était ces pseudo-supporters lyonnais. Non, ils ont décidé que tout le monde était coupable et ils ont viré tout le monde de la compétition. Alors, le petit truc qui est drôle, c'est que finalement, c'est Nice qui s'est retrouvé sans match. Nice, où il y avait eu les premiers incidents de la saison avec Marseille. Alors après, pour vous dire, moi, hier, je regardais un match, je ne sais plus, c'était Arsenal, je crois.
Arsenal et City, ou sur le but de Rodri en toute fin de match.
Il y a eu à peu près 20 bouteilles sur la pelouse. Alors, il n'y a pas eu de contact. Mais pour te dire
que... Ça a dû toucher, au bout d'un moment.
Je ne sais pas si ça a touché, ou s'ils n'en ont pas fait des caisses aussi, peut-être. Quand je dis ça, je ne juge pas Payet par rapport à l'histoire, hein, parce que ça peut faire très mal ce qu'il a pris. Mais... Où là, si tu regardes en fait le foot qu'on prend en exemple en France à chaque fois, on dit regardez le foot anglais. Et ben voilà. Résultat, tu avais quand même 20 bouteilles à peu près lancées des tribunes. Donc
j'ai rien contre mes amis anglais, mais le hooliganisme ne vient pas de France.
Non, il vient d'Angleterre des années 70.
Il y a que Madame Thatcher qui le comprend pas. Mais
elle est morte. Elle en est morte.
Voilà. Mais elle en est morte peut-être, mais je sais pas si vous avez vu celui-là, Hooligan. Qui est un film vraiment réel, qui est vraiment tiré de faits, des faits divers, mais
des faits réels.
Non, tu laisses ça, des autres.
Et moi,
on en est arrivé là. Maintenant, nous, on n'est plus des hooligans en France. On est des voyous. Parce que moi, j'appelle ça des voyous. Les hooligans, ils se battaient contre un clan adverse. Ils se battent. Là, en France, ils ne viennent pas pour le match. Alors qu'en Angleterre, ils viennent pour le match. Oui, ici,
ils se battaient avant et après le match.
Pas pendant.
Ça pouvait arriver. Après, on n'avait pas forcément les images.
On parle des années 80, attention.
La base du hooliganisme en Angleterre, c'est les années 70.
Ouais.
Et j'en parlais avec un certain Matthew G. Et qui me parlait des grandes rivalités qu'il y avait entre le club de Gillingham et le fameux club de Millwall, qui est réputé pour la connerie de ses hooligans. Un des clubs de Londres. Mais ça, c'était déjà dans les années 70. Donc, du coup, l'Angleterre a eu le temps de faire des mesures de. Mais il y a toujours, je te rassure, il y a toujours des histoires de hooligans.
Oui, mais moindre.
Parce que ça se voit moins.
Voilà. Les hooligans, ils se battent en rang serré dans les rues. Eux, ils se battent dans les stades. Les voyous, ils se battent dans les stades.
Allez, on revient sur le terrain du jeu. Il reste deux affiches dans cette Coupe de France et dans une très attendue par nos voisins Vannetais. La réception du Paris Saint-Germain, c'est ce soir à 21h10.
Devant malheureusement que 5000 spectateurs.
Alors voilà, mes amis, je devais être au match ce soir, mais voilà.
Tu as préféré être ici avec nous, c'est
tout. Il n'a pas eu le choix, surtout.
Évidemment, j'ai pas eu le choix parce que la jauge est passée à 5000.
Ouais, il faut le rappeler. Quel que soit l'enceinte, c'est 5000 pour le foot, enfin tous les sports en extérieur, foot et rugby, et 2000 pour les sports de préau.
Donc si vous ne connaissez pas le stade de la Ramine qui accueille 7500.
Allez, 8000.
Spectateurs.
On s'y rend bien.
La jauge est passée à 5000. Donc voilà, les joueurs de Pierre Talmont ce soir, qui est un pote, je le salue ce soir.
C'est le coach de Vannes. Hein.
Le coach de Vannes, je lui espère voilà, tout ce qu'il faut. Et bien moi, je vais vous dire, j'ai mis un petit billet sur Vannes.
T'as mis le restaurant, t'as mis tout.
Ah, sa maison.
Par contre, il peut racheter la Bretagne si.
Non, mais il y a beaucoup d'absents en face. Il y a beaucoup d'absents. Messi, Neymar, il y a les joueurs Ramos qui est bien sûr suspendu. De toute façon, il ne joue jamais. Donc, Di Maria, Marquinhos, Paredes, Icardi. Et Pierre Talmont, il a une équipe qui est pas mal. Il a une équipe avec deux anciens internationaux qui est pas mal, des jeunes. Et il a sur le banc aussi un mec, Erwan Quintin, qui a connu l'épopée la Coupe de la Ligue, qui a 38 ans. Et excuse-moi, j'en ai beaucoup plus que lui, mais qui est un joueur exceptionnel.
J'ai dit plus âgé, hein, pas plus âgé que toi. Hein.
Oui, mais c'est un mec qui peut faire la différence. Si on arrive à les faire douter, on peut faire la différence. Et Vannes peut faire la différence, excusez-moi du... J'ai un petit côté, 1% pour Vannes.
T'as le droit, t'habites à côté.
J'habite à côté de Vannes, donc j'ai bossé il y a longtemps à Vannes. Donc c'est pour ça que je vous dis que...
Sur un malentendu, mais la cote à 15 contre 1, Fabrice, elle joue pas en faveur des Bretons.
Je sais, Matt, mais regarde, en 97, le PSG, ils gagnent 4-1 à Clermont. À l'époque, en 4e division.
Et ils sont remontés.
À l'époque, de Ngoti, Loco, Le Guen, Rai, Lama... Ils sont remontés et ils perdent au pénalty.
Et on se rappelle de l'exploit de Enjolras, qui était le gardien de Clermont, qui avait éliminé à lui tout seul.
Exactement.
Paris.
Alors, pourquoi pas? Et moi, je le dis, pourquoi pas ce soir?
Mais c'est quoi ton pronom?
1-0 pour Vannes.
Ok.
Et c'est la beauté du sport.
Hein?
Et c'est la beauté.
Et c'est la beauté. Et c'est la beauté, mais il y a plein de clubs qui l'ont fait. Il y a eu Calais, il y a eu.
La Rochefort des Football, il n'y a pas si longtemps que ça.
Marseille.
Pas les Herbiers, pardon.
On va pas parler des Marseillais ce soir, je ne sais pas si on aura le temps. Mais les Marseillais, ça fait 15 ans qu'ils ne s'étaient pas qualifiés contre un club amateur. Ça fait 15 ans qu'ils perdaient contre les clubs amateurs, en 8e. Donc voilà, ils sont qualifiés, ils étaient très contents d'avoir gagné 3-0 hier soir.
Allez, pour fermer cette page Coupe de France, il restera un match à jouer demain, le derby du Nord. Hein, pour une fois, ça sera en coupe entre Lens et Lille pour
une jauge malheureusement à 5000. Du coup, j'en profite, un tout petit mot, c'est du foot féminin, puisque ça sera les 16e de finale de Coupe de France dimanche prochain au stade Marcel Saupin. Bon, donc on a le droit d'être jusqu'à 5000, donc 2000 ça peut être fait. Venez nombreux, le FC Nantes reçoit l'En Avant Guingamp, équipe de D1, à 14h30 à Marcel Saupin.
Eh bien c'est noté sur l'agenda, allez on passe à l'étranger. Là il y a deux championnats qui avaient lieu, et en Angleterre c'était la Première Ligue, Jérôme.
Voilà, tout à fait, en Angleterre la Première Ligue, où là c'était un très gros match entre Chelsea et Liverpool, qui a fini sur un beau score de 8 partout, avec de très beaux buts, de très belles actions. Mais en parallèle de ce beau match, ces deux clubs-là qui sont en lutte pour le titre pour Leicester City ont perdu des points, qui se retrouvent maintenant à 11 points et 10 points derrière City qui a encore gagné
Arsenal,
après malgré un très 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 beau match des Gunners d'Arsenal.
Pas mérité la défaite d'Arsenal.
Du tout mérité. Et même Guardiola l'a reconnu à la fin du match qu'Arsenal aurait dû gagner ce match.
Mais c'est pas un petit peu la victoire du champion? Est-ce que City n'est pas déjà champion?
Si.
On sent l'amateur des Sky Blues.
On peut rappeler l'écart au classement, c'est pas énorme, je crois qu'il y a 6 points. Hein.
Non, il y a 10 points.
Il y a 10 points.
10
et 11 points. Ouais,
mais Liverpool qui a 11 points a un match en retard, donc ils peuvent revenir techniquement à 8 points. Mais ça commence déjà à faire beaucoup, sachant que City, sur les 10 premières journées, n'ont perdu que 10 points par rapport au nombre total qu'ils pouvaient engranger.
On a l'habitude de dire que c'est après le Boxing Day que tout se joue. Celui qui sort en tête au Boxing Day avec une belle avance, et Liverpool comme Chelsea ont un peu raté leur Boxing Day,
Ah, c'est ça. Souvent, comme on dit, on ne gagne pas Chelsea, le championnat au Boxing Day, mais on peut le perdre. À mon avis, là, Chelsea l'a perdu.
Chelsea, j'en rajoute un peu. Ils ont vraiment perdu avec tout ce qui se passe en ce moment chez eux en interne. Avec l'affaire
Lukaku, il veut aller jouer où ? Au Barça ?
Non, il a dit qu'il voulait retourner à l'Inter. Après, le truc, c'est
que
l'interview est sortie 3 semaines après avoir été faite. Alors, elle est sortie vraiment au mauvais moment. Et du coup, où il a dit qu'il espérait retourner à l'Inter avant d'être en pré-retraite. Du coup, ça a été, puis différentes choses, ça a été mal interprété, puis, et après,
il a aussi surtout dit, en fait, le fait que...
L'entraîneur de Tottenham.
Oui. Ah, pas...
Dans l'interview, il a dit qu'il voulait rejouer avec son coach, c'est-à-dire...
Antonio Conte qui est à Tottenham, donc il envisageait de partir à Tottenham, ouais, ça c'est possible.
C'est des prochains, Kane signe à City et Lukaku à Tottenham.
Du coup, à la finale, pour le match de ce week-end, il a été mis en tribune et ça n'a pas empêché Chelsea, qui était mené 2-0, de revenir à 2 partout.
Au moins, pas de caprice de star à Chelsea, hein. Tourelle, il fait...
Voilà.
Bon, c'est pas Tourelle qui a pris la décision, à mon avis, c'est au-dessus, hein.
C'est Abramovic, il s'occupe pas de ça non plus.
Bon, je sais pas si c'était Abramovic, mais c'était peut-être quelques échelons inférieurs. Après, oui, peut-être que Tourelle a pris des décisions, mais en tout cas, ça a pas si pénalisé que ça Chelsea, qui est bien revenu en toute fin de première période face à Liverpool, et qui du coup s'accroche à la deuxième place.
On voit que c'est pas le cirque Pinder dans ce club.
Non, c'est pas du tout. Et puis surtout qu'il y a un Chelsea City qui s'approche, là, qui s'annonce. Ça va être un match décisif pour savoir si Chelsea peut encore espérer être champion ou si vraiment City décroche. Enfin, se décroche en tête.
Quelle date le choc City-Chelsea
C'est la prochaine journée, si je crois bien. Donc,
d'accord, ce week-end.
C'est ce week-end, totalement, à samedi à 13h30.
Et ben, on en reparle lundi. Il y avait d'autres résultats en Angleterre, Jérém ?
Oui, la nouvelle victoire de Tottenham 1-0 face à Watford. Qui, depuis que Antonio Conte a repris les rênes en championnat, c'est 7 matchs sans défaite pour Tottenham.
Alors, c'est pas contre des gros cadors du championnat, faudra voir ça après.
Au moins, la mécanique est.
Mais au moins, ça marche.
Et ça, c'est pas beau à voir, mais au moins, ça marche.
C'est efficace.
Et ils reviennent du coup 6e, à seulement 2 points de la 4e place, donc qui appartient à Arsenal, mais avec 2 matchs en moins, sitôt qu'aux annulations au Covid. Donc, Tottenham se relance pour la course à la 4e place.
Ok, on passe en Espagne. Là aussi, ça jouait ce week-end.
Et ça joue ce week-end, et grosse surprise. L'ouverture du championnat, c'est la défaite du Real Madrid face à Getafe. Défaite 1-0, qui sur le score n'avait rien dernièrement, mais quand on voyait ce qui s'est passé pendant le match, des joueurs du Real Madrid nonchalants, voulant faire produire aucun effort. Et c'est ça qui est fortement critiqué dans les médias espagnols ce matin.
Okay. Bah, ils ont bien lutté en première mi-temps, mais après, c'est vrai qu'en deuxième, on n'a pas eu de réaction des meringues.
Benzema s'est fait remettre dans ses 13 mètres. Là, ça a été chaud apparemment à la mi-temps.
C'est ça.
Ouais. Et du coup, mais après, voilà, après, tu peux passer à travers d'un match.
Vinicius, que je ne vais pas.
Jérémy, par contre, Jérémy a tout à fait raison. Je n'ai pas vu le match. Mais quand tu vois la finale de demi, le contexte du match, Real n'a pas joué quoi. Ils sont arrivés en dilettante et en disant voilà, on va leur mettre une branlée et voilà, ils ont perdu 1-0.
Le challenge qu'il y avait à côté, c'est maintenir l'écart de 17 points entre leur rival historique, le Barça, qui lui, le Barça, a gagné son match
1-0 à Mallorca.
Parce qu'il y avait l'équipe type sur le terrain. Hein, donc faut pas se cacher voler la face et ils sont arrivés en dilettante, nonchalant et voilà quoi.
Voilà, et en même temps il y avait l'autre derby de Madrid, l'équipe préférée de Vincent, les Colchoneros, qui recevaient mon équipe que j'aime beaucoup,
de
le
Vincent,
Rayo Vallecano.
Gros bisous à Vincent et
exactement.
Bonne année à Vincent.
Et merci, je lui transmettrai. Et 2 buts de Correa ont permis à l'Atlético Madrid de se relancer et de passer au classement devant leur adversaire du soir, le Rayo Vallecano.
Et en parlant de ça, le club de Séville qui est 3e, le Betis, qui a stoppé son ascension avec leur défaite 2-0 face au Celta Vigo.
Ouais, les potes de Fekir, ouais, qui marquent le pas, mais bon, tout le monde marque un peu le pas. Hein,
et dans le même temps, Séville joue ce soir à Cadiz à 21h, donc on verra si Séville peut se rapprocher du Real Madrid.
Est-ce qu'il pourra faire la belle ? Ça passionne un peu moins l'Espagne, hein, sans les deux mégastars. Hein.
Ah, c'est sûr, t'enlèves Ronaldo et Messi, c'est sûr que c'est
À mon avis, l'année prochaine, ça va être plus intéressant avec le retour de Mbappé, avec l'arrivée de Mbappé au Real Madrid, sans doute.
Tu as des sources, Charles ?
Oui,
et de Haaland au Barça,
Peut-être, alors ça c'est moins sûr quand même, mais ils ont déjà Ferran Torres, l'ailier de Manchester City qui est parti au Barça, donc déjà ils commencent à se renforcer. Ça pourra être sans doute plus intéressant avec Mbappé au Real l'année prochaine.
Après, faut pas se poser de questions. De toute façon, c'est sûr, c'est fait.
Oui.
Voilà. Il y aura d'autres. Il y aura Haaland.
Peut-être Haaland.
Il y aura peut-être des Lewandowski aussi qui vont bouger un peu cet hiver.
Il va y avoir du mouvement.
Il y aura du mouvement cet hiver.
Ok, bon, on va fermer la page football pour aujourd'hui et on parle de handball. C'est H-Time.
Hashtag Money Time. Toute l'actualité du HBC Nantes par notre bande d'experts. Débrief, info, interview.
Hashtag Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on revient sur la Leaky Moly Star League. On n'a pas eu le temps de vous en parler de cette fin de saga XXL avec ce fameux match entre le H et le Paris Saint-Germain. Un match qui s'est joué finalement qu'à un but, Jean-Marc. L'exploit était tout proche pour les violets, mais qui ont mal négocié le Money Time.
Le premier exploit, c'est pour toute l'organisation d'avoir réussi à accueillir 29 174 spectateurs en trois matchs. Record toute catégorie battue en France. Et un match de folie contre les Parisiens que Nantes a géré de différentes façons. Ils ont eu des moments où on y a cru. Ils avaient quand même 3 buts d'avance à 10 minutes de la fin.
Ouais, il y avait un plus 3 qui a été mal géré. Le Paris Saint-Germain qui attaquait à 7, et ça a un peu désorganisé la base arrière qui n'a pas réussi
à gérer. Que ce soit Thibaut Briet ou autre, ils n'ont pas réussi à gérer cette équipe qui jouait à 7 contre 6.
Ouais, mais c'était de bon augure pour ce qui allait se passer dans le week-end, puisque le H remettait le couvert avec un Final Four, cette fois-ci à jouer à Metz, face d'abord à Montpellier en
demi-finale. Un match de fou.
Et un match sérieux.
Alors sérieux, un petit peu dans le ratage du match des deux équipes, que ça soit Montpellier ou Nantes qui ont cafouillé le handball pendant
50 minutes.
50 ouais. minutes et puis une fin de match de folie où Nantes, qu'on croyait à un moment donné perdu, va réussir à l'emporter superbement et s'assurer une place en finale.
Ouais, une finale qu'ils vont gagner dès le lendemain face à Chambé, un match un peu plus facile.
Chambé qui avait réalisé une perf absolue en éliminant Paris en demi.
Eh oui, puisque Paris n'était pas encore tombé depuis le début de la saison, à part en Coupe d'Europe, bien sûr, mais en tous les cas, pas sur le sol français.
Et résultat, Nantes qui s'impose en finale, il n'y a pas eu match, il n'y a pas vraiment eu match, grâce à Emile Nielsen, superbe dans les buts, où il a fait beaucoup d'arrêts. Et un petit peu tout le monde a voulu gagner cette deuxième Coupe de la Ligue pour le H. Ce n'est que le cinquième trophée, je crois, pour les Nantais.
Mais ça fait du bien.
Ah oui.
Ouais, un beau trophée, le H qui courait derrière depuis maintenant 4 ans. 4 ans, la dernière fois que les violets ont levé les bras avec une coupe.
Et puis ça permet à Emile Nielsen, qui nous quittera à la fin de la saison, de partir avec un trophée dans la musette.
Ouais, et pour faire la transition avec les bleus qui vont démarrer le 13 janvier, leur euro, bien sûr, on parle de handball masculin. Et on a eu la joie d'apprendre que Théo Monard et Thibaut Briet rejoignent le staff des Bleus pour la préparation.
Et ils rejoignent aussi Ed Moidon, notre arrière préféré, Aymeric Mine.
Aymeric Mine.
Ils seront 3 Nantais dans le groupe.
Ouais. Et numériquement, Monard remplace Lucas Karabatic forfait.
Oui, et ça c'est une très très belle nouvelle et il va pouvoir exploser aux yeux du monde. Parce que moi je vous le dis, ce gars-là, ça sera le meilleur pivot du monde dans très peu de temps.
Ouais, on y croit.
Est-ce que la cote est à 15-1?
Oh non, je crois qu'elle est beaucoup plus serrée que ça. Non, c'est vraiment un super pivot.
On ne fait que valoriser...
L'Euro des Bleus avec tous ses forfaits, est-ce qu'on peut être enthousiaste?
On est quand même champion olympique en titre.
Mais on avait tout l'effectif pour les JO là. On est d'accord en plus avec ce qui vient d'arriver à Elohim Prandi. On perd un gros bras sur la base arrière. Il nous manquera un défenseur de métier. auxquels viennent s'ajouter d'autres...
D'autres absences.
D'autres absences. Il y a du boulot pour Guillaume Gilles.
Alors, je dis pas qu'on est favori. Pour moi, on n'est pas favori, mais on peut aller chercher... on est dans les quatre. Allez.
C'est ça.
Et si ça se gère bien, et si on choisit les bons moments de phase de jeu et tout ça, les Français peuvent aller au bout.
Allez, un mot des féminines, les Neptunes qui débutent bientôt leur campagne européenne qu'elles ont terminée en triomphe l'année dernière. On parle bien sûr de l'European League.
Exactement, et elles joueront dimanche avec la réception des Allemandes de...
Bietigheim, leader de Bundesliga. Attention, gros match en perspective à la H Arena, exceptionnellement dimanche, 16h pour les Neptunes. On y sera.
Oui, et du coup, un tout petit mot, à moins que tu avais quelque chose à rajouter sur les Neptunes. On a remarqué qu'il y a quelques recrues, il y a eu un peu de changement. Ça va être très intéressant de voir les nouvelles joueuses arriver et puis la nouvelle coach, assistante coach de Guillaume Sorina. Mais moi, je voulais juste revenir sur le titre de vice-championne du monde des Françaises.
Ah oui.
Qui ont perdu, malheureusement, en finale, comme l'année dernière au championnat d'Europe. Mais c'est toujours une belle perf, hein. Et on notera la belle performance, du petit peu de temps de jeu qu'elle a eu d'Orlana Handa, la seule Nantaise qui aura joué un petit peu et qui aura marqué un but contre la Serbie.
Ouais, un match en deux temps avec une première mi-temps exceptionnelle et puis une deuxième, un naufrage.
C'est liquéfié totalement. C'est,
J'avoue, j'ai craqué, j'ai pas regardé la fin du match parce que je n'en pouvais plus de voir.
Fâché, mais on les félicite.
Silje Solberg aussi.
On les félicite aussi, quand même, ces Françaises qui maintenant arrivent toujours à s'introduire dans le dernier carré. Et voir
c'est une nouvelle médaille.
En fait, ce qui est frustrant, c'est que l'équipe de France est capable de battre n'importe qui, sauf la Norvège. Bizarre. Alors après, la Norvège étant pour moi la meilleure équipe du monde et la plus titrée au monde. C'est quand même 8 titres de champion d'Europe, 4 titres de champion du monde et 2 titres olympiques, je crois. Mais c'est un peu frustrant.
Si on ne les affronte pas pendant la compétition et qu'ils ne sont pas en finale, c'est bon. Mais sinon,
les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, on ne les a pas affrontés et du coup, c'est les Russes qui les avaient fait tomber et on avait fait tomber les Russes.
Ouais, c'est la bête noire, quoi.
Voilà. C'est notre vraie bête noire, c'est la Norvège, clairement.
Allez, on enchaîne les garçons avec le reste de l'actualité sportive, c'est Multizone.
Money time. Multizone, tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et dans Multizone, on parle de rugby, on parle de Boxing Day, Jean-Marc.
Et il y a eu quelques beaux matchs, notamment ce week-end.
Ouais.
Et puis la surprise, la défaite de... Alors, surprise, oui et non. La défaite de Toulouse à Clermont, de justesse.
13-16.
Mais 13-16, exactement. Mais sachant aussi que Clermont n'a pas gagné depuis 2001... Toulouse n'a pas gagné à Clermont depuis 2001.
Donc ça fait un petit moment. Il manquait aussi Antoine Dupont qui n'était pas là.
Le meilleur joueur du monde.
Le meilleur joueur du monde. Donc forcément, ça fait des dégâts en termes de jeu. Donc Clermont qui est bien en ce moment. Toulouse qui sont un petit peu moins bien en ce moment. Ils enchaînent une deuxième défaite malgré leur victoire en Coupe d'Europe face à Cardiff. C'est une défaite un peu frustrante puisqu'il laisse un petit peu Bordeaux du coup respirer en...
Parce que du coup Bordeaux a pris l'ascendant au nouveau championnat. Ils sont à 4 points d'avance du coup sur Toulouse.
Bordeaux qui a dû jouer
batailler face à Biarritz.
Ils ont bataillé mais victoire 30-27 avec notamment un drop en fin de match, même si ils étaient à ce moment-là, ils étaient devant. Et d'ailleurs, c'est ce drop qui fait la différence à la fin parce que Biarritz marquait un essai et du coup 3 points d'avance à la fin. C'était un beau match et Bordeaux-Bègles qui du coup confirme leur bon début première moitié de saison et sont actuellement du coup premiers devant les Toulousains.
La Rochelle qui, en perdant à Castres... avec le bonus, parce que d'une petite pénalité, j'ai plus son prénom, mais le buteur Rochelet a deux balles, deux pénalités West. Pour pouvoir l'emporter. Voilà, West, Yaya West.
Il est à l'ouest.
Et là, il est complètement à l'ouest, il rate les deux, mais alors... La première difficile, elle touche le poteau. Bon, finalement, il y a une pénalité qui s'ensuit. La deuxième, un peu immanquable. Du coup, ça décale. C'est Castres qui passe devant La Rochelle au classement, je crois.
C'est ça, Castres qui passe du coup quatrième et La Rochelle cinquième. Un top 14 pour l'instant assez serré. Hein. Clermont qui, du coup, avec sa victoire, revenait à la septième place. Et du coup, était juste derrière Lyon, 6e avec 35 points, sachant que clairement un match en moins par rapport aux Lyonnais, Rochelet et Castres. Donc ça peut encore faire. Tout ça, ça va être encore très serré jusqu'à la fin de la saison.
Jusqu'au play-off.
Et en sachant que le match Montpellier et Toulon a été reporté.
Exactement. Et puis Lyon, belle victoire à l'arraché face au Racing. Qui,
un essai de Baptiste Couillou en toute fin de match à la 79e qui vient permettre au Loup d'arracher. La victoire et de rester en sixième place pour les playoffs. C'est important. Et le Racing qui, du coup,
passe derrière le Stade français. Ouais. Du coup, ça risque d'être compliqué pour les Racingmen d'être dans les playoffs.
Ça va être très compliqué. Ouais. C'est cette année, le Racing est vraiment pas très très bon. Ils ont des matchs, franchement, parfois des mi-temps sur courant alternatif où ils font une très bonne première période, puis en deuxième, ça s'écroule complètement. C'est dommage parce qu'ils ont des bons joueurs. Hein. On pense à Rouanimov ou encore à. Comment il s'appelle Yafikou et Teddy Thomas qui sont là. Voilà, donc c'est dommage. Mais Antoine Gibert, le jeune aussi, demi de mêlée.
Ouais, en cette année 2022, on attend des exploits. Ben, on rappelle, hein, le 6 février, le tournoi qui débute avec, là, on l'espère aussi, ben, une victoire pour les Bleus. Hein. Cette année, tout le monde sera derrière cette équipe à un an de la Coupe du Monde.
Juste un petit coup de gueule en rugby, c'est pourquoi ne pas avoir annulé la Coupe d'Europe? Puisque on l'a vu juste avant la fin de l'année, où ont été reportés tous les matchs français-anglais cause Covid, que les matchs contre d'autres équipes irlandaises ou galloises ont du coup été annulés et déclarés vainqueurs à celui qui y recevait. Un beau bazar. Alors
et puis une formule complètement illisible.
Et complètement illisible en plus, c'est des poules de 8, mais tout le monde ne se joue pas.
Ouais.
Du coup, vu la galère et vu qu'ils vont avoir du mal à le placer dans le calendrier, ça aurait été bien plus intelligent de l'annuler.
Des poules de 12 même.
Oui, de 12, pardon. Mais du coup, pour moi, ils auraient dû annuler cette Coupe d'Europe qui était bancale pour repartir sur quelque chose de sérieux une fois le Covid passé. De vouloir l'avoir maintenu, ça peut mettre en danger le tournoi et ça, c'est dommage.
Ouais, allez, on enchaîne. On parle cyclocross, Charles.
Yes.
Coupe du Monde et victoire pour Thomas Pidcock hier.
Exactement, on était à Oelst, aux Pays-Bas, et la victoire de Thomas Pidcock, l'anglais, le grand espoir d'Ineos Grenadier, qui vient s'imposer grâce notamment à la défaillance mécanique de Wout van Aert dès le premier tour. Dans les premières 30
secondes. Il avait crevé, non ?
Il a déraillé. Il déraille, parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de monde. Du coup, c'est un circuit très serré, hein, pas beaucoup de zones de dépassement. Ça a été compliqué. Il a pu revenir qu'à la 4e place, assez loin de Thomas Pidcock, qui s'impose notamment devant Elise Herbit, le Belge. Elise Herbit qui glane son 10e podium de la saison en 13 courses, avec 5 victoires, et qui, du coup, était leader du classement général et va gagner le classement général de la Coupe du Monde.
Attention, Van Aert est en pleine bourre. Hein. Il a gagné 2 étapes de la Coupe du Monde en décembre. À un mois des championnats du monde, hein, ça va être l'homme à battre.
Wout van Aert est le favori.
On avait 3 cyclistes vraiment favoris. On en a 5 maintenant.
Bah sur les championnats du monde, il y a vraiment il y a 5 favoris. Il y a Thomas Pidcock, Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, Elise Herbit
et Van Der Tourhoude.
Et Michael van Terrenhout. Donc, c'est vrai.
Rien n'est joué.
Vraiment,
rien n'est joué pour moi.
Ça va être très serré, même si on voit que c'est quand même sur les courses où participe Van Aert, il est quand même très très fort. Au moment où il a sa défaillance, là, il passe 38e derrière notamment Clément Venturini, qui était le Français qui revenait champion de France de cyclo, qui finit une belle 20e place. Mais il était très très loin et tout. Il dépasse tout le monde pour finir quand même 4e, alors qu'il était à un moment à très très loin, autour de la 40e, juste un peu devant la 40e place. Donc c'est pour dire le niveau qu'a Wout Van Aert, et il sera très très dur d'aller le chercher. Ça sera très dur. À noter que la prochaine manche de la Coupe du Monde, c'est le 16 janvier à Flamanville,
en Normandie.
Donc c'est sympa.
C'est la seule manche française d'ailleurs.
Non, il y a eu Besançon.
Ah oui, exact.
Il y a eu Besançon, donc c'est la prochaine, le 16 janvier. On va parler des femmes. Des femmes avec Lucinda Brand qui continue de rafler les victoires. Troisième victoire d'affilée pour la néerlandaise qui reste en tête du classement général. Elle s'impose notamment devant Puk Peeters et Anne-Marie Vorst. A noté une très belle course de Puk Peeters, qui était en tête sur les cinq tours des sept au total. Mais Lucinda Brandt a encore montré qu'elle était très puissante sur les 15 dernières minutes, qu'elle était vraiment très solide, qu'elle celle qui arrivait encore à avoir beaucoup de puissance en fin de course. Et pour l'instant, elle se dirige, alors pas officiellement, mais elle se dirige très probablement vers le titre de la Coupe du Monde au classement général.
Très bien. Allez, un mot de sport méca. C'est le Dakar depuis deux jours, toujours en Arabie Saoudite. Et la victoire du jour revient à Sébastien Loeb. La question du jour, est-ce que Loeb peut enfin gagner le Dakar ?
Fabrice, on t'écoute.
Il va bien falloir qu'il y arrive.
Il va bien falloir qu'il y arrive un jour. Il vient de changer d'équipe,
il a signé chez ProDrive, manufacturier domicilié au Bahreïn. Donc il vit beaucoup d'argent dans cette équipe.
Ouais, une équipe dans laquelle Hamilton a des parts. C'est une voiture hybride électrique, tout le bordel.
Évidemment, cette année, on a mis les barres très très hautes avec Audi.
Audi dans le bac à sable, pour l'instant, ça repartira.
Audi dans le bac à sable, hélas.
Avec beaucoup de retard.
Peter Ancel, il ne comprend pas ce qui lui est arrivé.
Il a cassé son train arrière.
Et il le dit, hein, j'ai une étape facile, j'étais à 100-150 km/h, voilà, j'ai pété mon train arrière sur un rocher que je n'avais pas vu.
Son petit train arrière.
Ouais, mais bon, 120 dans le désert, ça doit faire bizarre quand même.
Oui, surtout un expérimenté comme Peter Ancel.
Bon, en tous les cas, cette année, il aura pas la concurrence de Peter Ancel, puisque là, Peter Ancel est vraiment trop loin. Hein.
Oui,
Peter Ancel joue plus que les victoires d'étape.
23 heures de retard. Ouais. Et puis, Sainz, lui, s'est perdu complètement dans la première étape, donc il est largué aussi.
Ouais, c'est ça.
Donc,
pourquoi pas
2h24.
La première de Sébastien Loeb cette année.
Il est 4 minutes pour l'instant.
Ouais.
Oui, on va quand même rappeler que pour l'instant, le leader, c'est Nasser Al-Attiyah sur Toyota.
Avec très expérimenté,
le Qatar.
C'est un franco-qatari.
Avec Baumel,
ils sont quand même très, très expérimentés au Dakar. Donc voilà. Après, on va taper sur les étapes de plus de 550 km à chaque fois, et des spéciales de 300-340 km. Où il faut aller très 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 vite.
Avantage à l'Attiyah quand même, hein, pour l'expérience.
Je pense, pour moi.
Mais attention à Loeb, parce qu'il est très rapide.
Il est capable de tout.
S'il ne se perd pas, il pourrait...
Il est capable de tout, Loeb, on le connaît.
Bah, maintenant qu'il s'est séparé de...
Daniel Elena,
il a trouvé, alors on ne sait pas, en Fabien Lourquin, qu'est-ce qu'il va trouver comme copilote. Bon, pour l'instant, en tous les cas, victoire d'étape aujourd'hui. Sa 15e. Hein. Alors 15e, c'est aussi bien que Jean-Louis Schlesser et que Pierre Lartigue, par exemple, mais bien loin de la légende du Dakar. Arrive à Tannen et c'est 50 spéciales.
Hein. Ouais, mais ça commence.
En plus, ça, qui a 45.
Voilà, ça commence un petit peu à chambrer. En disant, Sébastien Loeb, heureusement qu'on lui a mis l'attache remorque pour qu'il soit toujours derrière nous. Ça envoie du steak, ça envoie du steak, quoi. Mais Peter Ancel, il ne peut pas ouvrir ça.
Non.
Il ne peut rien dire. Hein. Bon, Peter Ancel, c'est monsieur Dakar, quand même. C'est 14 titres, 6 en moto, 8 en voiture. Ouais. Bon, on ne peut rien lui dire. Et là, il a fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs.
C'est dommage, ça la fout mal hein, pour la première d'Audi qui avait d'énormes
objectifs. Curie est énorme.
Alors, c'est pas la première, les gars, puisque Audi avait été présent en 86 avec des espèces de Audi Quattro remaniés. Avec des belles perfs, mais toutes les voitures ont disparu apparemment.
Et le groupe Audi qu'on retrouvera peut-être en Formule 1 en 2023 ou dans les années futures, parce que c'est, enfin, il y a des discussions tout ce tour de ça, mais on en parlera plus.
Mais après, je vois qu'on lit tous les mêmes sites.
Hein. Regarde, moi je me rappelle toujours de Hubert Auriol quand sur sa spéciale, il est en tête, il fait
les poignets cassés,
les poignets et les chevilles cassées.
Les chevilles, pardon, pas
les chevilles cassées. Les chevilles et finit sa spéciale, il reste 250 km à faire. Fais 250 km à faire et les chevilles cassées, toi. En moto.
Du coup, tu peux nous donner les résultats des motos.
C'est Sanders, toujours.
Oui. Le meilleur au niveau du le meilleur au niveau du comment de la navigation, puisque c'est surtout histoire de navigation. Et dès le premier jour, tous les favoris étaient perdus.
Ouais. Alors personnellement, j'ai les résultats actuels après la deuxième étape. Saunders, du coup, l'Australien est redescendu septième. Bon, il est pas loin à 13 minutes. C'est le.
Mais moi, j'ai les résultats ce matin.
Oui, mais t'inquiète, Fabrice.
Oui, pas de souci, Fabrice.
À 19h, quand c'était arrivé, on était déjà en studio.
C'est vrai.
Donne-nous les résultats.
Je triche. Il est sur le journal. Je suis sur mon téléphone.
Exactement.
La jeunesse est un petit peu plus. Donc c'est Sunderland, le Britannique, qui est devant sur KTM, devant le Français Van Beveren qui
sur Yamaha.
Ouais, sur Yamaha. Donc le Français est juste derrière à 2 minutes. Donc on est content pour lui. Du côté, on peut aussi. Bon, après, on peut donner aussi les résultats pour l'instant. Les quads, c'est le Lituanien Kansius sur Yamaha qui est devant Copetti, l'Argentin, qui est aussi sur Yamaha, seulement 3 minutes. Le troisième a plus de 16 minutes. Donc, il y a quand même déjà un petit écart.
Et demain, une grosse étape 568 km avec 338 km de spécial. Donc là, ça va être très très chaud. Il ne faut pas se perdre.
Et des paysages magnifiques, bien sûr.
Évidemment.
Tout ça, c'est très très joli, toujours comme le Dakar, donc on est ravis, on espère du coup les Français comme dont Sébastien Loeb réussira à faire quelque chose.
Je pense, ouais.
On suivra ça. Bon, est-ce que vous avez d'autres infos dans cette rubrique multizone?
Il y a le ski alpin.
On était à Bormio chez les hommes.
C'est ça,
ce
on
week-end.
Était à Bormio avec deux manches, une de descente. Et c'est Dominique Paris, l'Italien, qui s'est imposé juste devant Marco Odermatt. Odermatt qui monte sur le podium. Hein, il domine cette.
Impressionnant,
Odermatt cette année. Il est vraiment supersonique.
Déjà presque 750 points en général.
C'est ça, il est vraiment au-dessus de tout le monde. Dans la Joan Claret, une belle 11e place et 14e place pour Mathieu Bellet sur cette. Descente, il y avait aussi du coup le Super G. Super G, c'est le Norvégien Kilde qui s'impose. Une belle victoire pour lui. Mathieu Bellet fait une belle 6e place, comme Blaise Gienzendanner qui fait une 9e place.
À tes souhaits.
Excusez-moi. Marco Odermatt, lui, finit encore 8e et prend encore de très bons points. Pinturo, hors du coup, 23e. Au classement général, Odermatt, 745 points premier, largement devant Kilde qui est à seulement 469 points. Il y a quasiment 300 points d'écart. Pinturo, complètement distancié, 5e avec 322 points. Il est hors du coup.
Pour Pinturo, il a un mois pour se préparer psychologiquement à être champion olympique.
C'est
parce
ça.
Parce que c'est tout ce qu'il a joué cette année, le général de la Coupe du Monde, c'est pas pour lui.
C'est ça, il peut viser les victoires. Mais surtout, l'objectif principal cette année, ça va être les Jeux Olympiques, comme
les
tu
Jeux
le dis.
Olympiques, ouais. Ça va être pour, Alex, là. Il va falloir trouver les ressources pour aller chercher cette belle médaille chez les femmes, épreuve technique.
C'était du slalom à Linz. Et une Française qui est en forme, c'est Tessa Worley qui remporte le slalom géant.
15e victoire en carrière pour elle.
C'est ça, une très belle victoire. Elle qui avait loupé notamment son slalom géant à Courchevel, où elle était passée pas loin de la victoire. Elle avait loupé sa 2e manche. Là, elle s'impose et c'est une belle victoire devant Petra Vlova et Sarah Hector. Worley qui, du coup, même si elle décrochait au classement, essaye de se mettre en condition pour pouvoir potentiellement faire de belles choses pour les Jeux Olympiques. Le deuxième manche, c'était du slalom. C'est Petra Vlova qui s'impose la Slovaque devant Michele Gisin, la Suisse. au classement de la Coupe du Monde. C'est très serré, c'est assez serré.
Chiffrine en tête, mais pas grand-chose sur
c'est
Goggia.
Ça.
Hein.
Chiffrine est en tête, mais derrière elle, Sofia Goggia avec moins d'une victoire. Elle est à, donc il y a 750 points pour Chiffrine, 657 pour Goggia. Donc il y a moins d'une victoire d'écart. C'est serré. Vlova qui joue encore un petit poil derrière avec 615 points. Ça va se jouer entre ces trois, là. Il reste encore pas mal de deux manches, la prochaine en janvier, donc c'est le 4, donc c'est demain à Zagreb avec un slalom. Donc favorite Petra Vlova, évidemment. C'est tout ça, c'est, évidemment, avec la coupe, les Jeux Olympiques en février. Ça va être encore très intéressant cette année de ski alpin chez les femmes.
Eh ben moi, je vais vous parler de foot US, puisqu'on arrive à la fin de la saison régulière. Ça se terminera dimanche prochain avec des belles affiches. Alors, il y a celles qui me font plaisir avec le fameux Lions Packers. J'en profite pour saluer Xavier et lui souhaiter une bonne année.
On embrasse.
Et puis, des matchs qui auront une importance, puisque ça nous permet de savoir qui est qualifié, qui est en wildcard. Du coup, des matchs entre les Raiders de Las Vegas, qui pourraient se retrouver qualifiés s'ils battent les Chargers de Los Angeles. Les Rams de Los Angeles, quant à eux, s'ils gagnent, empêcheront les 49ers de San Francisco de se qualifier. Et il y a un superbe match aussi entre les Ravens Baltimore et les Pittsburgh de Steelers. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'en conférence américaine, les Bills, les Bengals, les Titans, les Chiefs, ainsi que les Patriots se sont qualifiés. Il y aura donc du coup, après, ça se joue entre Pittsburgh, pour les deux places restantes, ça se jouera entre Pittsburgh et Baltimore, et du coup les Raiders et les Chargers, et dans la National Conference sont qualifiés pour les wild cards et pour les demi-finales les Cowboys de Dallas, les Packers de Green Bay, les Buccaneers de
Tampa Bay,
merci, et les Los Angeles Rams et les Arizona Cardinals sont qualifiés également, ainsi que les Philadelphia Eagles. Et ça se jouera du coup entre les Saints et les 49ers pour la dernière place. Et bien on a hâte de voir tout ça, puisque dans 15 jours, on attaquera les wildcards. Et je vous rappelle que le Super Bowl, ça sera...
8 février,
exactement.
Je crois, hein. Le 8, très la grande fête du foot US.
C'est pas diffusé sur l'équipe, parce que c'était l'année dernière.
Ça sera sur l'équipe. Donc, sur l'équipe et Bein pour voir tous les matchs.
Donc on peut voir ça en plus en clair, donc c'est grave cool, donc n'hésitez pas.
Exactement, là de toute façon il y a un peu un match, chaque semaine il y a un match sur l'équipe.
Toujours,
ouais.
Allez, il nous reste 10 minutes, c'est l'heure de jouer, c'est l'heure du quiz.
Money Time. Chaque semaine on se divertit, chaque semaine on se quiz.
Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
J'ai oublié de vous dire que le fameux John Madden était décédé. Vous savez, celui à qui on devait le foot.
John
Madden. C'est les fameux jeux de foot américains.
EA Sports.
Et qui avait été coach des Raiders à l'époque où ils étaient à Oakland. Donc on salue sa mémoire.
Ok.
Allez Fab, le quiz, on t'écoute.
Bon, c'est un petit quiz. Hein. J'ai 4 questions. Si j'ai improvisé. Donc,
on va prendre son temps alors.
Prendre son temps pour... Jean-Pierre Papin, ça vous dit quelque chose ?
Bien sûr. Non, c'est qui ?
JPP, bien sûr.
PAP1.
JPP.
Patator.
En 54 sélections, vous avez le droit à 2 buts d'écart. Combien a-t-il mis de buts en équipe de France ?
33.
Pas mal. Qui a dit 33 ?
Un tout pile ? C'est un tout pile.
Non, c'est pas un tout pile.
32.
Ah, 2, c'est pas mal.
31. Allez-y, les gars, balancez.
Allez, Charles.
34.
Non.
36.
30.
Non.
30, bravo.
30.
30 buts en 54 sélections, c'est pas mal
c'est
quand même. Hein.
Bah ça fait un beau ratio, ça.
Et un peu moins d'un sur deux, donc c'est pas mal. Un peu plus d'un sur deux, pardon.
Et voilà, quoi, c'est quand même... Et c'est pas des buts de raccro qu'il a mis, hein.
Ah bah
le JPP.
Ouais, Jean-Pierre Papin.
Des buts bien cherchés, c'est retourné des bonnes reprises.
Je crois qu'il a gagné quelques trophées.
Il a gagné un ballon d'or, déjà. C'est impressionnant. Hein. On n'a pas beaucoup de Français.
Le problème, c'est qu'il n'était pas forcément la meilleure période de l'équipe de France.
C'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, il est tombé l'équipe, voilà.
Et on aurait tellement aimé les voir tous aux États-Unis.
Ah oui.
Et oui, génération. Mais on va pas revenir sur cette question qui va me fâcher, si on va reparler de Ginola, ça.
Non, on en parlera
pas. C'est mon ami.
On veut pas te fâcher avec
Ginola. C'est mon ami David et je veux pas me fâcher. J'adorais.
Surtout qu'il se fâche facilement, David.
David.
Oui, en plus. Ouais. Et à l'époque, Thierry Roland, qu'il avait traité de petit salopard.
Oui.
Oh, bah, c'est méchant, ça.
Et ça m'avait très déçu parce que Thierry Roland, pour moi, était.
Bah, c'était le commentateur.
Oui, après, il a dit des fois des trucs désagréables, évidemment, et très cons, et racistes, et tout ce que tu veux.
Évidemment, évidemment, comme il a pu se traiter un arbitre de.
Oui.
Voilà. Non, mais là, on était tous d'accord avec lui.
C'est ça. Non. pas sur la teneur des propos.
Non.
Mais après, en même temps, c'est aussi ça qui faisait aussi tout son charme à Thierry Roland.
Oui. Ouais, tout à fait. Ouais, bien sûr.
Ça fait partie du personnage.
Son manque de tact et tout.
Thierry Roland.
On sent que Thierry Roland est le parrain de mon fils, quand même.
Ah oui.
Donc, voilà. Non, son homonyme, je te rappelle. C'est le parrain de mon fils s'appelle Thierry Roland.
Il est homonyme.
Il a horreur de homonyme. Il a horreur du football.
Mais il a peut-être été dégoûté par ça.
Oui.
Bref.
Deuxième question. Thierry Henry. Combien de coupes du monde?
4.
De jouer. Bah,
de jouer ou de jouer?
Jouer 4.
Combien de coupes du monde a joué? 4. Bravo, Matt. Et combien de buts?
51.
23.
En Coupe du Monde.
Ah, en Coupe du Monde.
En Coupe du Monde.
23.
En Coupe du Monde.
Beaucoup moins.
6.
Exactement. Et combien? Il a fait 2 fois 0.
Bah ouais,
en 2002.
2010, oui.
Et 2010.
2002, voilà. 2010,
et 2 fois 3.
Bah, 4 Coupes du Monde, mais il y en a une, il s'en serait bien placé, hein, celle de l'Afrique du Sud, avec l'épisode du bus de Nice Nack.
Ah, ce bus, je pense qu'ils l'ont gardé, je pense.
Ouais. Et pour info, les trois joueurs à 5 Coupes du Monde, vous les connaissez?
Les trois joueurs à 5 Coupes du Monde, Marcel Desailly.
Il y a 2 Mexicains, non, c'est pas des Français. Hein.
Il y a 2 Mexicains, Emilio Sanchez.
Maradona.
Hernandez.
Non. Ronaldo.
Il a joué à Monaco.
Ah, le défenseur.
Rafa.
Marquez.
Rafael Marquez, exact.
Il y a Ronaldo, il a fait 5.
5 aussi, ouais.
Pelé.
Ouais. Et Carbaral, un autre Mexicain.
Gardien. Carbaral, j'aurais pas trouvé.
Ouais. Et tu m'as dit combien? Et Ronaldo, ça fait 3. Ils sont que 3 à 5 Coupes du Monde.
On va changer de sport mécanique.
Ouais.
C'est sa retraite, hein, c'est normal. Valentino Rossi a couru pour 4 équipes. Vous pouvez me dire lesquelles?
Yamaha.
Honda.
Alors, Honda, Yamaha, on en a 2.
Ducati.
Ducati 3.
Il n'y a pas KTM.
La première. Sa première, celui qui fait plutôt 125, 250.
Aprila.
Bien joué. Aprila.
Ouais. Mais il est bon.
Il a fait 4 saisons avec Aprila, 4 saisons avec Honda, 2 avec Ducati et 16 avec Yamaha.
Ça fait beaucoup.
C'est quand même pas mal.
Puis il a remporté des courses, je crois.
Mais il a remporté un petit peu de courses, quoi.
Voilà, c'est pas du tout une légende de la moto.
On va parler tennis.
Ah.
Djokovic, 20 victoires en Grand Chelem. Mais quel tournoi il a le plus remporté?
L'Open d'Australie.
Ouais, bravo, et combien de fois?
10? 9.
Bravo, Charles. 9 fois l'Open d'Australie. Roland Garros, 2 fois.
Ouais.
Wimbledon, 6 fois. Et l'US Open, 3 fois.
C'est ça.
Bravo, Charles.
Mais attends, il est peut-être. Il n'est pas encore confirmé. Hein,
non, il n'est pas encore
l'Open
confirmé.
D'Australie. On sait que Federer est forfait, ainsi que.
Dominic Thiem.
Thiem.
Ouais, il y en a beaucoup. Hein.
Serena Williams aussi, il ne fera pas le déplacement.
Pas sûr non plus.
C'est les deux, Venus et Serena, ne sont pas là.
Ouais. Alors que Rafael Nadal, lui, il est arrivé le 31 décembre à Adélaïde pour le tournoi d'Adélaïde. Enfin non, pour Melbourne.
Il a été pick-up, non? C'est pas ça?
Non, c'est c'est le petit tournoi de Melbourne de préparation juste avant le.
Il va tout donner pour être le premier à 21, Nadal, je peux vous le dire. Hein.
Ah bah lui, là.
Ouais,
surtout si Djoko le fait pas.
Oui.
Surtout si Djoko le fait pas.
Bah, surtout qu'on avait tous parié que. Pas tous, mais.
Que Djoko serait le premier à passer la barre.
Premier 21 s'il gagnait l'US Open. Hein.
Surtout que l'Open d'Australie.
Il faisait le super, le vrai, le seul, l'unique Grand Chelem, le Grand Chelem calendaire, qui n'a pas été fait depuis.
Il l'a fait, mais.
Quand on avait parié qu'Hamilton Hamilton gagnerait sa 8e couronne au championnat du monde Formule 1. Et voilà, ça ne s'est pas fait parce qu'on ne s'est pas revus depuis, mes enfants.
Et, à noter que Nadal, en cas de victoire à l'Open d'Australie, serait le balle. Du coup, avec Djokovic, les deux seuls à avoir remporté au moins deux fois chaque grand chelem. Et il serait du coup passerait à 21 grands chelems en étant seul en tête. Mais on n'est pas encore là.
Ce qui est impressionnant, c'est que vous n'étiez pas né, mais qu'on avait des joueurs comme Connors, Gaylordaitis, McEnroe.
Gaylordaitis.
J'étais pas né.
Mais des joueurs, on disait, voilà, il n'y aura plus de grands joueurs comme ça.
Ah oui,
mais
oui.
Si, il y a toujours des grands joueurs comme ça. C'est comme au football, on disait, il n'y aura pas de joueurs comme Pelé, Maradona, il n'y en aura plus.
Mais des Ronaldo, des Messi.
Des Messi, des Ronaldo.
Mais on n'est pas dans la plus grande ère.
Des pilotes de Formule 1, des Prost, des Senna, il n'y en aura plus. Mais si, on a eu Schumacher, on a eu Hamilton.
Alonso même encore.
Verstappen, on verra Russell d'ici quelques années.
Même Leclerc.
Et voilà, Leclerc, Russell. Et tout ça, il faut dire, voilà, le sport évolue, il y a toujours meilleur. Toujours, on monte en puissance.
Ah bah de toute façon, avec les performances aujourd'hui, il y a tellement des moyens technologiques, des moyens, des exercices pour permettre d'améliorer de plus en plus la performance. Et à la fin, on s'attendait, il y a plein de records qu'on ne s'attendait pas à voir battre. Et finalement, il y a eu Usain Bolt, il y a eu machin.
Usain Bolt.
C'est incroyable.
Bruno Marreiro, son record de France aux 100 mètres était imbattable. Bon, ils ont battu le 4x100 mètres en 91, ils ont battu les Américains, on se disait... Ils l'ont fait.
Pareil, Renaud Lavilloni en saut à la perche, on voyait jamais battre Bubka et pourtant voilà. Puis là derrière, il y a le petit Duplantis qui arrive et tout, c'est incroyable.
Donc tout ça peut se faire.
Les records sont faits pour être battus.
Bon, est-ce qu'il nous reste pas une question?
Oui, allez.
Allez, j'ai plus de questions.
Ah, il y a plus de questions. Comme il est 20h.
Non, la question c'est votre pronostic ce soir.
Ouais, c'est
je
ça.
Veux le voir Van PSG. Votre pronostic Jérémy.
3-2 Van. 3-2 Van.
3-1 pour Paris.
3-1 pour Paris.
3-2 Van.
Pour faire ça jouera au péno.
Charles.
2-0 Paris.
Bon, moi j'ai mis 1-0 pour Van.
Je veux être réaliste, mais en même temps mon cœur me dit allez Van, on sait jamais, ça serait beau.
Ça m'a entendu.
Eh Mathieu, on t'a pas entendu?
3-2 Van, je t'ai dit. 3-2 Van.
3-2 Van, oh là, 5 buts.
Ouais, 5 buts. J'ai regardé ça genre tout de suite.
C'est
pour
à
voir
suivre
ça.
Sur France 3.
Exactement, okay. À partir de 21h05.
Il est 20h, on laisse la place à nos potes de Passage en Force. Ça parle de NBA. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne année à tous encore. Ciao.
Salut à tous.